L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Heures passées de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info, hein, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. Alors ça c'est théorique, puisque on est en période de vacances, donc il y a assez peu d'équipes en ce moment, vu qu'on est tous bénévoles, mais il y a quand même le Canu Info du jeudi qui fait une dernière émission, avant de faire une pause aussi, pendant le mois d'août. Donc cette semaine, qu'avons-nous prévu dans ce Canu Info?
Je crois que j'ai perdu mon déroulé.
Alors j'ai un truc qui s'appelle l'Afrique au cœur des enjeux, ensuite il y a une rubrique énergie-environnement, une double rubrique, ensuite on va parler d'assassinat d'État, donc la peine de mort j'imagine, on va parler des fachos qui aiment les paysans pollueurs, on va parler de résistance, de ni Dieu ni maître, d'homophobie, enfin de choses comme ça dans ce Canu Info. C'est toi qui ouvres avec l'Afrique au cœur des enjeux.
Oui, alors c'est vraiment une toute petite introduction pour dire que c'est vrai que les agendas se croisent, hein, au niveau de la diplomatie, puisque M. Macron fait son petit tour en Afrique. Il faut que la France fasse toujours coucou à l'Afrique, hein, pour rappeler qu'on y a des intérêts bien évidemment politiques et économiques, hein, ça va ensemble. Et puis de l'autre côté, on a la diplomatie russe qui se balade elle aussi en Afrique pour rappeler que la Russie a toute son importance sur le continent africain. Alors là aussi, on est sur des enjeux économiques, mais aussi sur des enjeux politiques, puisqu'avec cette guerre en Ukraine provoquée par la Russie, chaque parti, évidemment, est dans la propagande. La Russie, tout particulièrement, tente de mettre les pays africains de son côté en expliquant, par exemple, qu'il ne faut pas que les pays africains tombent dans le côté occidental, parce que c'est les occidentaux qui provoquent globalement la misère du monde. Je vous la fais courte, mais ce sont les propos, hein, qui sont tenus actuellement par cette diplomatie russe sur le continent africain, et que... c'est Sergueï Lavrov, hein, qui est en Afrique, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. C'est le ministre des Affaires étrangères russe. Donc là, il était à Addis Abeba et devant tout un parterre de représentants africains, il a donc expliqué que c'était l'Occident qui a créé un système basé sur des principes, l'économie de marché, je le cite, la concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété privée, la présomption d'innocence. Tous ces principes ont été jetés à l'égout quand il s'agit de faire ce qui leur semblait nécessaire pour punir la Russie. Donc, le but de M. Lavrov, c'est de se balader auprès de ses partenaires africains, tout en replaçant continuellement l'Afrique au cœur des débats et de la nécessité, hein, de se rendre nécessaire auprès des partenaires africains. Alors, il accuse aussi, hein, l'Occident. Évidemment, l'Occident, c'est les États-Unis et l'Europe, d'être à la manœuvre, et c'est cet Occident qui crée une flambée des prix. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la guerre, c'est bien l'Europe et les États-Unis qui sont à la manœuvre pour faire monter les prix. Hein, on a l'impression un peu que ça serait fait exprès, vous voyez, on peut aller jusque là carrément. Alors de son côté, hein, Monsieur Macron, lui par exemple, était au Bénin, il se balade un petit peu, lui aussi il va serrer des mains. Il y a quand même aussi une problématique énergétique, hein, évidemment, pour les deux parties, que ce soit la Russie ou pour la France avec Monsieur Macron. Là, du côté de Monsieur Macron, on s'attaque à la Russie en parlant évidemment des médias. Il a fait référence à RT France et à Sputnik, qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paie, c'est pas nouveau. Étant donné que l'Union européenne est en train de prendre des mesures contre RT France, il est dans cette logique, hein, il prend pas trop de risques, hein, Monsieur Macron, non plus. Et puis, par contre, il va un peu plus loin en disant qu'il y a un chantage de la part de la Russie, c'est le mot qu'il a employé, sur la sécurité alimentaire. Et il explique que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine et qui les régulent. Il n'y a aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit. Là, il répond, hein, en fait, aux accusations russes. Et puis, il explique que la Russie a commencé au fond un nouveau type de guerre mondiale hybride. Et là, il tend à dire aux pays africains, attention, vous pourriez vous aussi être menacé par cette Russie guerrière qui est à peu près à tout. Donc, il parle aussi d'impérialisme coloniaux, hein, de la part de la Russie. Alors, c'est marrant comme il renverse un peu cette idée quand même de la colonisation qui serait pas tant due à l'Europe que à la Russie. Donc voilà, c'est une guéguerre des mots et de la propagande qui se joue sur cet immense continent qui a évidemment besoin d'un peu tout le monde. Et puis, il y a des enjeux politiques. Il y a des gens qui suivent la Russie, d'autres qui suivent l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. Et cette guerre, hein, de la propagande, elle est extrêmement importante et elle est assez révélatrice de ce qui est en train de se passer aussi au niveau économique, parce que la mainmise d'une partie ou d'une autre sur ce continent, elle est extrêmement importante. On sait que de partout, hein, on a des entreprises et des multinationales françaises comme russes qui s'implantent aussi en Russie et en Afrique, excusez-moi, et qui ont besoin de ce marché. Et puis, tout le monde colonise quand même l'Afrique, il faut bien le dire. Et la Chine, à côté, joue son petit jeu, comme d'habitude, en étant extrêmement présent sur le continent africain, en y créant des usines, des routes, et tout ce qui va bien, toujours dans ce sens d'améliorer la condition de vie des Africains et des Africaines. Donc, à côté de cette Russie et en tout cas, là, aujourd'hui, de cette France, il y a aussi cette Chine, bien évidemment, qui reste bien cachée derrière, mais qui est extrêmement présente, et particulièrement financièrement.
Alors on passe à une rubrique énergie-environnement, avec le petit indice du jour qui montre inévitablement des signes de réchauffement et de dérèglement climatique, puisque ça touche un petit pays qui s'appelle la Suisse. Et la Suisse, elle regarde, c'est un pays montagnard, hein, montagneux, vous dites comme vous voulez. Et il y a en fait un indice qui est mesuré en Suisse régulièrement, qui est l'isotherme du zéro degré, donc qui regarde à quelle hauteur en mètres l'air est à zéro degré. Et ils viennent de battre un record qui avait 27 ans, puisque aujourd'hui en Suisse, le zéro degré est à 5184 mètres. Ce qui est drôle, c'est que pour une fois, il est au-dessus du plus haut sommet suisse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sommet suisse, ils le font avec un ballon météo là qui font grimper dans le ciel. Mais voilà, donc pour la première fois depuis 27 ans, le zéro degré est plus haut que la plus haute des montagnes suisses. Donc voilà, cet indice, il a fait que monter ces dernières années. On en voit les conséquences assez régulièrement sur la fonte des glaciers. On a eu cet accident en Italie. Il suffit de regarder les photos satellites des glaciers pour voir que la situation est catastrophique. Mais voilà, c'est cette mesure qui nous donne elle aussi à montrer qu'il y a vraiment un impact, hein, pour les imbéciles qui n'auraient pas encore compris. Ensuite, toujours dans cette rubrique environnement, le retour du fils de la vengeance de la chasse. Donc le gouvernement, on l'a appris aujourd'hui, a mis en consultation plusieurs projets d'arrêtés portant sur des chasses traditionnelles d'oiseaux. Alors ces arrêtés, ils avaient existé, mais ils avaient été retoqués en 2021 par le Conseil d'État. Parce qu'ils allaient à l'encontre du droit européen. Donc ces nouveaux textes qui sont proposés par le gouvernement, qui sont ouverts à la consultation donc du 21 juillet jusqu'au 10 août, portent sur, je cite, donc la capture de vanneaux huppés et de pluviers dorés à l'aide de filets, ça c'est pour les Ardennes, la capture d'alouettes des champs au moyen de pentes, donc une pente c'est un filet particulier, ça concerne la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, et une capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles, donc ça c'est un nom qui veut dire des cages, pour les Landes et le Lot-et-Garonne. Ces projets d'arrêtés permettent à vue comme ça, d'après les estimations, la capture et donc la mort à la fin de 100 000 oiseaux de différentes espèces. Mais il est précisé dans les projets d'arrêté que, je cite, la décision de publication de ces projets de texte tiendra compte du jugement de fond, du Conseil d'État sur le contentieux en cours concernant l'arrêté relatif au quota de prélèvement par ce mode de chasse sur la saison dernière, celle de 2021. On se rappelle qu'en octobre 2021, le juge des référés du Conseil d'État, comme je l'ai dit au début, saisi en urgence par les défenseurs de la nature, avait suspendu tous les arrêtés gouvernementaux autorisant la chasse de ces oiseaux, la chasse traditionnelle de ces pauvres petits oiseaux des champs. Après une première annulation, donc en août 2021, et plusieurs autorisations de ces autorisations de chasse. Alors ça concernait aussi des griffes, des merles, des vanneaux, des pluviers dorés, comme j'ai dit, de pas mal d'oiseaux des champs, avec ces deux méthodes là, avec des filets ou avec des cages. Le juge avait estimé donc qu'on n'était pas du tout dans les clous par rapport à la directive européenne oiseaux de 2009, qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction d'espèces. Alors, il y a une dérogation possible à condition, je cite, d'être dûment motivé et dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour capturer certains oiseaux, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, le ministère de la transition écologique, hein, qui est à l'origine, c'est assez marrant que la transition écologique soit chargée de gérer la chasse, qui est la destruction écologique souvent de la nature, non écologique de la nature. Et donc, le ministère de la transition écologique promet que dans les projets d'arrêter, le suivi d'une formation sera obligatoire pour les pratiquants. Alors ça, on n'y croit pas du tout, mais ils disent ça. Et que ça respectera le droit européen. Bon, on est sceptique. Et qu'il y aura des contrôles. Alors là, ils vont très très loin quand même, hein, des trucs qui n'arrivent quasiment jamais. On n'y croit donc pas du tout. Alors le second quinquennat d'Emmanuel Macron, que lui-même avait promis d'être écologique, ça n'aura pas duré longtemps. En fait, on peut même dire que ça n'a jamais commencé, hein, l'écologie version Macron. On l'attend toujours. Donc on rappelle, hein, que les populations d'oiseaux des champs s'effondrent depuis de nombreuses années, en France et ailleurs d'ailleurs, en cause notamment les produits chimiques, hein, que les agriculteurs productivistes mettent dans les champs. Et se rajoute une deuxième couche de problèmes qui s'appelle la chasse traditionnelle. Voilà. On se rappelle que Macron est très aficionados des mesures pro-chasse, comme beaucoup de ses compatriotes politiques. Il chasse un électorat pro-chasse avec ses mesures. Dernière petite info, vous l'avez tous entendu, parce qu'ils en parlent partout, on est le jour du dépassement, ce 28 juillet. Alors c'est géré, hein, ce truc, ce critère, par Global Footprint Network, et c'est aussi co-géré par le Fonds mondial pour la nature, le WWF. Alors c'est un indicateur qui est très complexe, qui est calculé à partir de 15 000 données fournies par les Nations Unies, et à partir de ces données que fournissent les États aux Nations Unies, eux ils calculent la biocapacité de la planète, ils font une comparaison et ils disent, bah, à partir de telle date, on a dépassé ce que la planète peut fournir, donc on détruit, on n'a pas des situations d'équilibre. Alors ça, le calcul de l'indice se discute, c'est un petit peu imprécis, mais c'est un intérêt énorme. C'est un intérêt énorme, c'est que ça fait parler de notre impact environnemental et ça fait parler de manière très efficace en termes de communication. Donc c'est un indice qui est très important sur la communication. En termes de science pure, on peut conjecturer en disant, bah là, ça prend pas assez, par exemple, les émissions de CO2, mais ça prend trop, etc. Ben voilà, c'est un petit peu approximatif, mais c'est vraiment suffisamment précis quand même pour servir à montrer les problématiques. Donc voilà, parce qu'il y en a qui l'attaquent toujours pour des questions scientifiques. En fait, faut pas être si rigoureux que ça sur cet indice-là, puisque c'est un indice qui sert beaucoup à la communication, mais qui est pas un indice faux non plus, qui est un indice imprécis, mais qui est capable d'être précis sur un impact écologique de la planète quand on découvre des choses tous les jours. Donc voilà, alors ça montre que la planète est au 28e, mais en fait, si on regarde, la France, c'était le 5 mai le dépassement. Les États-Unis, c'était le 13 mars. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les pays pour voir un petit peu l'impact de chaque pays sur la planète. Donc voilà ce que je voulais repréciser sur ce jour du dépassement qui est officiellement pour la planète aujourd'hui.
Oui, ben on va parler d'environnement et puis on va parler un peu de sous-sous qui va avec. Hein, parce que vous savez que ça va ensemble, l'environnement et les sous-sous. Alors, premier chiffre, EDF a subi une des ses plus lourdes pertes, hein, de son histoire au premier semestre. 5 milliards 300 millions d'euros de pertes. C'est pas mal.
Ouais.
On va dire ça.
Ouais, il y a une conjecture, hein. Le gouvernement a obligé EDF à pas facturer réellement au coût réel de l'électricité, de la production de l'électricité. Donc ça, ça fait très mal à EDF. Il y a le fait que la moitié des centrales nucléaires soient fermées. Ça c'est le plus gros impact en fait. Hein. C'est la catastrophe sur les corrosions notamment, et puis sur le fait qu'il fasse trop chaud et que les centrales, que certaines ont eu une autorisation de détruire les saumons, de tuer les saumons notamment en faisant monter l'eau à des températures destructrices pour les poissons. Donc il y a tout ça qui se met en jeu, et puis surtout il y a la mauvaise gestion de l'entreprise qui a choisi le tout nucléaire, alors qu'aujourd'hui le tout nucléaire semble une vraie aberration, même en termes économiques.
Et je vais mettre un chiffre en miroir, parce qu'on est toujours sur du milliard. C'est Total Energy qui a doublé son bénéfice au deuxième trimestre à 5 milliards 700 millions d'euros.
Grâce à tous les
dollars, excusez-moi.
Ouais. On remercie au passage, Total remercie au passage tous les automobilistes qui achètent du pétrole pour mettre dans leur voiture.
Oui, alors...
On peut dire que c'est une contre-performance quand même.
Alors, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, il y a une provision quand même qui est mise en milliards de dollars à hauteur de 3 millions, qui est liée à l'impact sur les sanctions internationales avec la Russie. Donc, malgré tout, Total Energy s'en sort très bien. Il y a une bonne situation mondiale.
Comparé à leurs concurrents Shell, ils sont ridicules.
Alors, il faut tout reposer.
Shell est largement au-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette annonce a relancé la question, et puis c'était à l'Assemblée nationale, de taxer les super-profits. Je vous rappelle que M. Bruno Le Maire a dit qu'il se méfiait de l'idée de ces super-profits, de ce terme. Il se méfie.
Lui, il n'aime pas taxer les riches, globalement.
Non. Et en plus, après, il ment un peu sur Total, puisque Attac l'a attaqué, sans jeu de mots, assez facilement sur les réseaux sociaux depuis ses sorties, puisqu'il explique qu'en fait, Total, finalement, ils font pas leur profit en France, donc c'est normal qu'ils payent pas leurs impôts en France. Ouais. Alors, Attac a bien expliqué que la France, en France, Total, l'énergie, fait 21% de son chiffre d'affaires mondial.
Voilà, donc pas
là comme ça, en passant.
Donc 21% de 5 milliards, ça fait déjà pas mal.
Et juste pour information, il y a 35% des effectifs qui sont en France Total Energy. Donc en fait, il y a des chiffres qui montrent que on va arrêter de tourner autour du pot, et que monsieur Bruno Le Maire veut juste en fait protéger ces multinationales avec leurs super profits. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que madame Borne, elle, de son côté, elle dit que plutôt que taxer, parce qu'ils sont tous et toutes bien d'accord, on demande à ces entreprises d'aider les Français. C'est ce qu'elle a expliqué. Alors, ça fait marrer cette idée d'aider les Français, parce qu'on le retrouve ça dans toute la presse, sur Radio France, d'une manière, c'est très partagé, que, en fait, l'idée, c'est que ces entreprises, elles nous aident. Par exemple, le Figaro, l'écriture sur le Figaro.fr, par l'écriture de Sybille Chastain avec Thomas Engrand, on apprend donc que le prix des carburants, quelle enseigne offre un coup de pouce cet été. Donc en fait, c'est pas des entreprises qui baissent leur prix, c'est qu'elles nous aident, la main sur le cœur, par amour, et donc elles nous font un petit coup de pouce. Moi, cette propagande de, ils baissent pas leur prix, mais ils nous donnent un coup de pouce, c'est quand même juste de la...
Ouais, mais c'est pas
exprès. Ils se fichent de nous, en fait.
Il faut pas dégrader l'image des entreprises. Une entreprise, c'est sacré, on n'y touche pas.
Bah, surtout, le gouvernement joue à l'espèce de jeu qui ne pousse à rien. Il y a l'augmentation du SMIC, mais enfin, ils y sont pas pour grand chose. On refuse d'augmenter le RSA, on refuse d'augmenter plus le SMIC.
Et le pire, c'est que rien n'est mis dans la transition énergétique. Alors que, il faudrait mettre 100 milliards d'un coup. La guerre a commencé il y a 6 mois. Les problèmes de l'énergie, il y a un peu plus d'un an. En un an, ils auraient dû mettre des centaines de milliards dans la transition énergétique. Alors, je ne parle pas de passer sur des bagnoles électriques, c'est une connerie. Mais de faire plein de choses comme l'Allemagne l'a fait. Je vous rappelle, pour quelques euros, vous avez tous les transports gratuits dans toute l'Allemagne cet été. Enfin voilà, des choses comme ça. Et le gouvernement, non. Il fait l'aumône auprès des entreprises. Vas-y, baisser les prix, comme ça, on a l'air sympa.
Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois, on ne nous dit pas Total Energy, baisse les prix. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre paquet de pâtes il perd 10 centimes, c'est que le prix a baissé, on est d'accord. Mais c'est pas ce vocabulaire qui est employé. À chaque fois, on nous parle de ristourne, de remise. Parce que de toute façon, il faut bien être lucide. Ça va pas durer. Le truc, c'est que Total Energy fait ce geste parce que, je viens de vous le dire, il y a quand même du bénéfice. Net, quand même. Je veux dire, on parle de milliards, quand même. Ça marche plutôt pas trop mal. Mais évidemment, du côté des autres vendeurs de carburant, c'est pas du tout le même discours, et en particulier pour les vendeurs de carburant qui sont accolés aux supermarchés, c'est les marques Intermarché par exemple, Carrefour, Système U, Auchan, tous ces gens-là vous expliquent en fait ils vont pas baisser les prix à la pompe, d'ailleurs ils communiquent pas du tout sur la question, et quand ils le font c'est pour expliquer qu'en fait eux souvent c'est un prix d'appel.
Oui, ils ne font pas de marge dessus. Ou très peu, mais c'est ça, c'est un produit d'appel.
Et c'est pour ça que tu vas plutôt aller chez Leclerc que chez Auchan, c'est parce que quand tu amènes ta bagnole, eh ben, tu vas passer à la pompe et que ça va être un peu moins cher que la concurrence. Mais effectivement, ces entreprises ne sont pas du tout dans ce discours porté par Madame Borne et donc suivi par Total Energy. Donc j'ai trouvé que ce vocabulaire était assez intéressant. Et puis pour continuer avec le capitalisme, il y a une petite chose qui m'a fait marrer, j'ai appris ça dans Ouest France, sous la plume de Clément Arion. Alors ça se passe dans le Finistère, puisque Maëlle de Calan, présidente du département du Finistère, avait accepté qu'il y ait une indemnisation du gasoil utilisé normalement par les agriculteurs. Les agriculteurs ont donné leur gasoil aux pompiers pour permettre d'éteindre des feux. C'est-à-dire que ça a facilité le travail pour l'intervention des pompiers sur les incendies du Mont Aré. Maëlle de Calan, président du département du Finistère, s'était dit, on va indemniser les agriculteurs. Sauf que il y a Yannick Jouan, qui est élu municipal de La Feuillée, qui est élu vert, a expliqué que lui, il n'était pas d'accord. Donc il a communiqué hier, mercredi, en expliquant qu'il était vraiment contre cette idée, puisque c'était contre... Enfin, lui, il est contre la solidarité marchande et qu'il estime que les agriculteurs qui ont apporté leur aide, ils ont fait acte de solidarité et qu'on ne devrait pas les rembourser. Alors en fait, il explique plus loin que ces agriculteurs qui ont participé à cette solidarité par le gasoil, c'est pas les petits agriculteurs, c'est des grosses entreprises du secteur agricole qui en fait ont des énormes machines qui sont très qui dépensent beaucoup de gasoil, et que c'est pour ça qu'ils ont pu fourguer leur énergie, leur gasoil, c'est parce que en fait ils stockent.
Mais c'est vrai que dans la démarche des gens qui font l'effort de donner, d'aider les autres, vouloir les récompenser ou les rembourser en retour, ça c'est bizarre.
Enfin, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi on sent quand même qu'il y a une confrontation locale que nous on connaît pas ici. Il dit, ce fameux Yannick Jouan, si leur engagement sur ces feux a été remarquable, il est regrettable dans le drame actuel de monétiser leur acte de solidarité. Ce choix de rétribuer certains agriculteurs vise une population agricole bien spécifique qui détient les plus gros engins et qui représente un modèle agricole que j'affectionne peu. Donc en plus, voilà, on sent que derrière il y a aussi du local qui est peut-être plus proche d'une confédération paysanne, il le cite pas du tout, d'une FSEA, en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis pour continuer juste aussi sur cette affaire quand même entre l'environnement et le capital, la France, vous le savez, vous avez l'Assemblée nationale vote tout ça. Il va y avoir un décret. Vous savez que les centrales à charbon repartent.
Enfin, il y en a que deux.
Ouais, elles vont repartir. Donc celle de Saint-Avold qui avait fermé, sur lequel il y a quand même un plan de sauvegarde de l'emploi, il va être suspendu. Il y a un décret qui est promulgué pour un redémarrage. Alors ce qui me fait marrer quand même du côté du gouvernement, c'est qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un redémarrage qui doit être neutre pour l'environnement, avec des contreparties environnementales. Je sais pas non plus, je cite. J'ai pas compris.
Je sais pas, ils vont peut-être prendre le CO2, le réinjecter dans la gueule des ouvriers, des ouvrières qui travaillent, je sais pas.
Alors, il paraît que donc Gazelle Énergie, qui détient donc cette centrale à charbon de Saint-Avold, va augmenter les salaires parce qu'il va falloir faire revenir les salariés qui sont formés. Et il faut quand même savoir que sur ce plan de sauvegarde à l'emploi, en même temps, dans ceux et celles qui étaient là, la plupart sont à la retraite aujourd'hui. Donc il va falloir trouver les moyens de faire revenir ces gens, de les motiver. Alors a priori ils vont être bien motivés par les salaires, mais en même temps, comme le rappellent les syndicats, il va y avoir pas mal de profits pour Gazelle Énergie sur cette nouvelle activité. Donc l'un va avec l'autre et
là,
tout va bien.
D'un seul coup quand même, l'environnement a disparu.
Ah, complètement. Alors, j'ai beaucoup aimé moi une phrase aussi qui est donnée par le gouvernement, c'est un redémarrage qui s'inscrit dans le plan de fermeture. Et alors là, vous avez 2 heures, vous avez le rebrouillon, parce que je trouve cette phase quand même absolument magnifique. Enfin, toujours est-il que tout ça est fait pour que ça soit de courte durée quand même. Donc ça sera plutôt des CDD, on vous le dit tout de suite si vous retournez travailler. Mais ce redémarrage s'inscrit dans le plan de fermeture, je trouve ça quand même pas mal. Mais voilà, mais effectivement, l'écologie, ça soit dessus là quand même.
Allez, peine de mort.
Ah, mais alors attends, je vais trouver mes petits papiers. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de peine de mort. On va partir dans 2 pays qui sont, d'après les classements d'Amnesty International, 2e et 3e.
Le premier, c'est la Chine.
Oui, voilà.
Mais avec beaucoup d'avance.
Alors, je ne vais pas parler d'Arabie Saoudite, même si Mohamed Ben Salman est aujourd'hui accueilli en France.
Ouais.
avec les honneurs.
Bah ouais.
Moi, j'ai beaucoup entendu parler ce matin de réel politique sur France Info. C'est un mot qui m'a beaucoup énervé. Parce que, enfin, globalement, il faut être réaliste, quoi. C'est normal qu'ils viennent. C'est un peu ça qu'on était en train de nous expliquer ce
matin.
Mais
la réel politique, c'est le synonyme de compromission, tu sais.
Donc, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, à la base.
Si, quand même, tout le
temps. À sa création, au tout début, ça ne voulait pas dire ça. C'était plutôt dans une idée de pacifier les relations diplomatiques. Là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de pacifier des relations diplomatiques pour éviter la guerre. Il s'agit plutôt de maintenir des relations dans un but commercial.
Et non. Politique.
Oui, bah ça va ensemble, comme je le disais déjà tout à l'heure. Alors, on va commencer avec le troisième de ce grand concours d'assassinat d'État. On va partir en Égypte, puisque fin juin, il y a un homme qui a été donc condamné à mort suite à un assassinat d'une étudiante. Alors, il faut savoir que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Égypte, puisque cette étudiante, l'agression, tout ça, ça a été filmé. Donc, il y a eu un grand mouvement de réaction en Égypte. Cette étudiante avait refusé ses avances. Et puis, il y a des gens autour qui ont trouvé ça sympa de filmer son agression et donc son assassinat. En tout cas, cet homme a donc été condamné à mort. Hein. Il avait un couteau, hein, Nahira Ashraf. Ça s'est passé devant son université. Hein. Et donc, il a été... Alors, comme ça a été très médiatisé, le tribunal de Mansoura a prononcé une peine capitale un mois après le crime. C'est extrêmement
rapide.
Et la cour d'appel a demandé exceptionnellement à ce que ça soit fait en direct, son exécution. C'est-à-dire, c'est un côté du Moyen-Âge, hein, quand même, se dirait certains. Alors, au Moyen-Âge, on n'exécutait pas.
Je te rappelle que la peine de mort à Lyon, c'est au dernier moment, les gens essayaient de voir, ils louaient des balcons pour essayer de voir sur le, je crois que c'est le Fort Montluc, là-bas, je sais plus, vers la manufacture des tabacs. Donc, ça a toujours attiré une partie de la population. C'est glauque au possible.
Si j'emploie ce mot, c'est parce que Human Rights Watch dénonce en Iran un acte médiéval. Je vais vous en parler après. Donc, je reprends cette terminologie. Ce qui est quand même incroyable, c'est ça, c'est que donc il a été condamné le 28 juin et le 24 juillet, là, les juges demandent à ce que ça soit donc une exécution publique et retransmise sur les médias. C'est-à-dire, non seulement tu peux y aller en direct, vrai, mais en plus, si jamais t'es chez toi, de ton canapé avec tes chips, tu peux aussi regarder cette mise à mort. Il paraît que ça serait une diffusion exceptionnelle pour permettre de dissuader le plus grand nombre, je cite. C'est vrai que la peine de mort a toujours dissuadé.
Ouais, c'est ça. En termes d'efficacité, on est proche du négatif, là.
Voilà, donc je vous le disais, l'Égypte est troisième hein, au rang des exécutions hein, à travers le monde. Voilà, mais normalement, c'est vrai que ça ne se passe pas en public et en plus pas en direct. Voilà, donc là, c'est un petit scandale. Et alors, du côté en Iran, là, l'Iran est deuxième, hein, mais se porte bien. L'Iran a repris vraiment les exécutions de manière très rapide hein, sur 2022. Et puis c'est pareil, le 23 juillet, l'Iran a procédé à sa première exécution publique depuis 2020. Il y avait une petite pause hein, alors on dit au Covid, à quelques difficultés. Enfin, le Covid, il abonde aussi, mais en tout cas, ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu d'exécution publique. Et là, c'est vrai que avec cette nouvelle politique et les radicaux qui détiennent tous les pouvoirs en Iran, eh ben il y a une répression extrêmement féroce. On l'a dit il n'y a pas très longtemps, mais il y a une répression extrêmement féroce aussi par la peine de mort. Alors, depuis le début de l'année, on est à 251 exécutions. C'est pas mal. Hein, c'est beaucoup plus que sur l'année 2021, où à la même période, on était à 146, 314 pour 2021. Donc, ça veut dire que déjà, on sait que 2022 va être une année d'exécution extrêmement importante en Iran. Et Amnesty International et le Centre pour les droits humains en Iran ont sorti un communiqué commun pour parler d'une frénésie d'exécution en Iran, pour dire qu'en fait, il faut commencer vraiment à s'en inquiéter politiquement, publiquement et collectivement, puisque aujourd'hui, l'Iran dépasse toutes les attentes possibles en matière de répression. On avait parlé de ces cinéastes réprimés et arrêtés, mais aussi de toutes ces personnes qui sont condamnées extrêmement rapidement aussi. C'est-à-dire que c'est des condamnations qui vont très vite, on arrête, on juge, pour rien. Par exemple, beaucoup d'affaires de drogue hein, en Iran mènent à la peine capitale. On en avait parlé aussi dans cette émission. Et c'est une situation qui est extrêmement compliquée, d'autant plus que l'Iran traverse une période de crise alimentaire, d'inflation extrêmement importante sur les produits de première nécessité. Et donc, on a une classe moyenne qui s'appauvrit de manière très importante, qui descend dans la rue, qui discute aussi sur les réseaux sociaux et qui risque malheureusement la répression et pour certains et certaines la peine de mort.
Alors on poursuit, on va parler d'un phénomène et d'un mouvement dont on n'a pas parlé dans ce qui est une info, le mouvement des paysans néerlandais qui a été très très fort et qui existe toujours. Et à travers notamment les soutiens, et on va voir un peu, on va comprendre ce mouvement à travers qui le soutient. Et le dernier en date, c'est Donald Trump. Alors Donald Trump, il a fait un discours de soutien aux paysans néerlandais. Le site d'information de la télévision publique néerlandaise, qui s'appelle NOS, N-O-S, constate hein, tout ce qui se passe. Alors ils disent, je veux bien que les drapeaux américains et néerlandais partagent les mêmes couleurs, mais on ne voit pas bien pourquoi les manifestations d'agriculteurs néerlandais auraient un lien avec la situation aux États-Unis. Et pourtant, quand la télé publique néerlandaise le constate, Donald Trump a fait l'éloge des fermiers néerlandais qui, selon lui, résistent avec courage à la tyrannie climatique de leur gouvernement. Ah oui, on commence à comprendre pourquoi. Donc les commentaires de Trump sont bien évidemment et malheureusement loin d'être isolés. Au cours des dernières semaines, les agriculteurs productivistes, puisque c'est d'eux dont il est question, qui manifestent aux Pays-Bas, qui protestent hein, contre depuis début juin là, contre le plan de réduction des émissions d'azote, c'est-à-dire contre la réduction des élevages industriels voulu par le Premier ministre Mark Rutte, ont reçu des marques de soutien de Marine Le Pen, qui a fait une belle vidéo qu'elle a postée sur Twitter et où elle parle, elle dit « Je soutiens les fermiers néerlandais en néerlandais ». De même, on a eu un bout de manifestation de soutien à Ottawa, dans la capitale du Canada, porté par, vous savez, ce mouvement des camionneurs hein, qui avait monté le convoi de la liberté. Donc c'était un mouvement complotiste contre les mesures sanitaires d'extrême droite, donc qui est allé manifester à Ottawa en soutien aux paysans néerlandais. Et puis, je pense que la cerise sur le gâteau, c'est le 8 juillet dernier, l'intervention de Eva Vlaardingerbroek, je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est ancienne membre du parti Forum pour Démocratie, qui est un parti d'extrême droite du nord de l'Europe, hein, des Pays-Bas, qui était une invitée sur la chaîne américaine Fox News, et elle y parle, je cite, d'une crise de l'azote inventée. Selon elle, les fermiers se trouvent en travers des projets de grid reset. Vous savez, la grande réinitialisation, grande théorie complotiste hein, sur les capitalistes qui dirigeraient tout et qui voudraient recommencer en tuant tout le monde. Enfin, il y a toute une théorie complètement farfelue, bien évidemment. Donc voilà, elle est intervenue comme ça et elle a dit « Derrière la politique de Mark Rutte, c'est le communisme ». C'est le mot qui tue. Il faut toujours dire communisme aux États-Unis hein, quand tu veux montrer que c'est les méchants les autres. Alors ça serait drôle si c'était pas ridicule. Ça serait drôle si ça avait pas d'impact. Ça l'est pas puisque ça a un impact malheureusement. Alors c'est vrai qu'il existe une grande interconnexion planétaire hein, entre les responsables politiques d'extrême droite et l'agriculture productiviste, elle a toujours été détenue et soutenue par ces gens-là. On pense au Brésil, on pense à la France, hein, Marine Le Pen en est la preuve, c'est un peu partout ça. On rappelle que le projet de loi, il voulait réduire les émissions de 70 à 95% pour protéger l'environnement et puis pour que le pays rentre un peu dans les objectifs. On a un peu la même chose en France avec les producteurs industriels de cochons en Bretagne qui refusent, qui n'ont pas besoin de refuser puisqu'ils sont main dans la main avec le gouvernement pour continuer de détruire la région. Donc voilà. Bon, c'était pour parler de ce mouvement, j'avais pas trop percuté sur les enjeux, et on a bien compris que c'était l'équivalent de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs, hein, des mouvements de droite ou d'extrême droite et de défense de l'agriculture productiviste et nocif pour l'environnement qui sont à la manœuvre, bien évidemment. Voilà. Alors, un sujet qui n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc je vais le faire rapidement. On est le 28 juin 2022, donc il y a un mois. La chaîne Telegram d'un groupe anarchiste russe publie 6 photos et une vidéo de rails de train qui sont sectionnés avec un fil électrique qui les relie parce que pour empêcher la détection et qui ont essayé de montrer qu'ils avaient tenté parce que ça a perturbé le trafic mais ça n'a pas fait dérailler le train, de faire du sabotage pour empêcher les trains russes d'arriver en Ukraine, des trains contenant des armes bien évidemment. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements d'activistes anti-guerre et notamment anarchistes en Russie. Il y a, on le trouve sur la chaîne Telegram. Alors là, le groupe s'appelle BOAK, B-O-A-K. Le A, il est en cerclé naturellement. Ils sont très présents sur le réseau social russe Vkontakte. Alors très présents sans se faire arrêter pour l'instant. Alors ils avaient déjà fait un sabotage d'une tour de télécommunication. Alors cette fois-ci, c'était à Kiev. C'était une tour turque. C'était pour s'opposer aux activités de la Turquie dans le Kurdistan, hein, où ils massacrent à tour du bras les Kurdes, et en Syrie, dans le Kurdistan, le Grand Kurdistan, donc les parties irakiennes, syriennes et tout ça. Donc ils avaient déjà fait comme ça des actions de sabotage. Ils avaient déjà aussi montré comment saboter des trains, comment faire les choses. Donc c'est un mouvement qui est... Alors, on n'a pas d'ampleur de savoir si c'est s'ils sont 5 ou s'ils ont déjà fait plusieurs attaques comme ça. On n'a pas d'idée. Mais on a quand même des petits indices. Alors, c'est le média russe indépendant The Insider qui avait relevé qu'il y avait eu 63 déraillements de trains de marchandises entre mars et juin 2022, donc depuis la déclaration de la guerre, 1,5 fois plus que l'année d'avant. Donc on peut dire qu'il a fait effectivement peut-être un impact. La société de chemin de fer russe RJD explique, lui, parce que c'est les rails qui sont en mauvais état ou des erreurs de pilotage. On comprend bien que ça suffit pas pour expliquer cette forte augmentation. On se rappelle que le 27 avril dernier, les services secrets russes avaient arrêté 2 citoyens russes soupçonnés d'avoir préparé une attaque justement de la même manière sur les rails entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, il y a eu aussi une explosion à Briansk, à 8 km de la frontière avec la Biélorussie et l'Ukraine, qui avait été revendiquée par des militants opposants à la guerre. Voilà. Alors, il y a d'autres groupes, certains sont montés par les Ukrainiens pour expliquer comment faire du sabotage sur le transport de matériel. Voilà, ça montre quand même que, même si c'est pas très important, que tout le monde en Russie n'accepte pas ce que fait Poutine. On voit et on entend souvent parler de quelques oligarques qui osent dire quelque chose, mais en fait, il y a aussi en bas des militants et des militantes, alors là c'est des anarchistes, qui essayent à leur petite échelle d'emmerder la Russie va en guerre. Donc voilà, c'était juste pour rappeler ça, c'était assez joli leurs images, comme ça on voyait le sabotage de la ligne. C'est encore à moi ? Alors un idiomètre. On va commencer par parler d'un article de Lyon Mag que je vais vous lire et on va se marrer un petit peu, où on va aller vomir sur le journaliste qui a écrit ça. Lyon Mag, c'est pas un journal, comment dirais-je, très progressiste quand même. On peut y lire, je cite l'article. Ce samedi, des tags insultants ont été découverts sur les murs d'une librairie religieuse située dans le 2e arrondissement de Lyon. Ni Dieu ni maître, LGBTQI plus forever ou God is dead, we kill him. Ça veut dire Dieu est mort, nous l'avons tué. Peut-on lire sur la devanture de la boutique de l'Emmanuel rue Sainte-Hélène ? Ces attaques verbales sont accompagnées d'un A cerclé, symbole international du mouvement anarchiste. Bien que rien ne puisse le confirmer, ces inscriptions sont donc probablement l'œuvre de militants d'extrême gauche. C'est en tout cas ce que dénonce Jean-Stéphane Chaillet dans un tweet. Encore des tags insultants sur les murs de la ville, assez de ces groupuscules d'activistes d'extrême gauche qui pourrissent Lyon. Ça, c'est le premier adjoint de la mairie de Lyon qui le dit. Je continue l'article. En 2020, la librairie chrétienne CLC, elle aussi située dans le 2e, avait fait l'objet d'une attaque similaire. Voilà donc le contenu de l'article. On nous dit, donc, on parle d'attaque et d'insulte. Alors pour eux, pour ce journaliste, écrire ni Dieu ni maître, c'est une insulte. Alors moi je comprends pas en quoi reprendre la devise du journal qui portait le même nom, popularisée par Auguste Blanqui, c'est une insulte. C'est le nom d'un journal, ni Dieu ni maître, et c'est le nom d'un rejet des croyances irrationnelles. Alors en quoi c'est insultant, hein ? Écrire alors LGBTQI plus forever, c'est une insulte aussi pour eux. Ah, ça veut dire que grosso modo le journaliste et Lyon Mag sont donc homophobes, parce que quand on dit il faut soutenir les LGBT, c'est homophobe, hein, quand on est contre, qu'on trouve que c'est une insulte. Et alors, God is dead, we kill him, donc en anglais, Dieu est mort, nous l'avons tué, là aussi ça serait une insulte. Une insulte de quoi ? Jusqu'à preuve du contraire, et ce torchon Lyon Mag, elle peut pas le démontrer l'inverse, Dieu c'est juste un personnage fictif inventé par des humains pour en assouvir d'autres. Il n'y a aucune preuve que ça soit autre chose. Hein, donc on a droit de dire le Père Noël est mort, je l'ai tué, parce que c'est une idée, c'est un personnage fictif, c'est pas une réalité. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est typique de Lyon. Les sectes et les religions ont une influence très très forte. On le sait sur certains politiques, on le sait sur certains médias comme ici. Ben bizarrement, Lyon c'est aussi une ville où la hiérarchie catholique a soutenu, protégé des prêtres pédophiles. Ouais, c'est pas grave, c'est la tradition lyonnaise, tout ça. Alors ce qui est marrant, ou ce qui est triste, c'est que quand on se balade à Villeurbanne, il y a plein de tags homophobes. Et on rappelle, ça c'est pas une expression, l'homophobie c'est interdit, c'est un délit. Bizarrement, ils n'en parlent pas trop, Lyon Mag, hein, des tags homophobes faits par, justement, en général, par des gens proches de ces groupes religieux fondamentalistes que nous vomissons. Donc voilà, donc dire que Dieu est mort ou on veut vivre dans un monde sans Dieu, sans maître, eh ben c'est pas des insultes, c'est juste un choix politique, une idée politique. Voilà. Je continue. Et on est dans la même ligne, puisqu'on va parler de la délégation d'Inuit qui devrait venir à Lyon en septembre. Alors, ils espèrent obtenir l'extradition d'un abbé qui s'appelle l'abbé Rivoire, Johannes de son prénom, qui est accusé de nombreux crimes sexuels et pédophiles. En fait, il a vécu une trentaine d'années au Canada, et ces crimes ont eu lieu, grosso modo, entre 1960 et 1992. Il y a eu un premier mandat d'arrêt canadien qui a été émis en 98, mais il n'a pas pu aboutir, car Johannes Rivoire, qui est réfugié à Lyon, a la nationalité française, et que la France n'exporte pas, n'extradit pas avec le Canada, les prêtres pédophiles. Du coup, les autorités ont suspendu la demande en 2019. Alors, faut savoir qu'il est pensionnaire d'un EHPAD à la Croix-Rousse, cet abbé pédophile Johannes Rivoire. Il a 92 ans, il est enfin peut-être un peu rattrapé par son passé. Alors il faut dire que les militants, les Inuits là-bas, et grosso modo les militants qui luttent contre la pédophilie, notamment dans les sphères religieuses, ils profitent de la venue du pape qui s'est excusé, enfin. On rappelle que le pape, l'église catholique canadienne a géré, enrôlé, torturé, violé, humilié 150 000 enfants issus des communautés autochtones dans 130 internats. Les protestants l'ont fait aussi à moindre échelle, mais les protestants sont excusés dans les années 90. Il faut attendre 2022, la venue de ce pape, pour qu'il y ait des excuses officielles de l'Église catholique. On attend l'ouverture des archives, tout ça, mais ça, faut pas rêver non plus. Un ancien de la Parole libérée, hein, qui s'était beaucoup mobilisé contre le père Prénat, pédophile ultra protégé par l'Église catholique lyonnaise, est en soutien de ces Inuits qui viennent à Lyon pour réclamer l'extradition de ce prêtre pédophile. Alors ça pourrait arriver, hein, c'est assez peu probable, mais ça pourrait quand même, parce qu'il est lâché par la congrégation dont il fait partie. En fait, c'est Vincent Gruber qui est le boss de la congrégation. Officiellement, ça s'appelle un provincial de France des missionnaires oblates de Marie Immaculée. Donc lui, Vincent Gruber, il dit qu'ils ont découvert ça en 2013 par la presse, on le croit pas vraiment, mais bon, il dit ça, et ils soutiennent pas du tout, et ils voudraient que le prêtre, ils l'ont isolé depuis cette époque-là, et que le prêtre, enfin l'abbé, réponde de ses agressions, de ses viols devant la justice. Donc il est un peu lâché par son truc, là, sa congrégation. Voilà, avec la venue des Inuits, si c'est suffisamment médiatisé, il pourrait se passer quelque chose, même si on n'y croit pas beaucoup quand même. Vas-y, fais une info, parce qu'il faut que je respire.
Alors, je vais vous parler de dauphins, si vous voulez bien.
Ah, c'est sympa, les dauphins.
Ah, non, mais
bon,
les gens trouvent que c'est sympa, alors en fait...
Il y en a une image, tu veux dire. Ça,
voilà. Contrairement à ce que j'en pense, ça a des dons, hein, les dauphins. Mais enfin bon, c'est pas de ça dont je vais vous parler. On a donc appris que le parquet de Grasse, c'est dans les Alpes-Maritimes, avait fait saisir début juillet 4 bateaux de 3 sociétés qui proposaient de nager en Méditerranée avec des dauphins. Alors, juste pour rappel... Il y a un arrêté ministériel qui date du 3 septembre 2020, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et qui interdit d'approcher les dauphins à moins de 100 mètres et qui interdit carrément de nager avec.
Ouais.
Donc ça veut dire que ces entreprises, ces sociétés continuaient à avoir une pratique touristique carrément illégale. D'où la saisie du parquet de Grasse. Alors l'idée c'était qu'à peu près pour 300 balles hein, par personne. On te baladait hein, soit à partir de Mandelieu-la-Napoule, soit à partir d'Antibes, donc sur la Côte d'Azur en bas là-bas. On te baladait avec ton petit tuba et ton petit masque hein, au milieu d'un banc de, de requins, j'allais dire de dauphins.
Ça aurait été plus drôle, un banc de requins. Ça m'aurait
beaucoup
plus.
C'était un lapsus, vous voyez que ça ne plaît pas bien ceux qui embêtent les animaux. Donc l'idée, c'était évidemment, hein, tout ça a été repéré pour que toi, petit touriste, tu sois tout heureux d'aller te balader avec tes petits dauphins. On a donc des patrons qui ont quelques soucis, qui ont fait une petite garde à vue, hein, y a eu des perquisitions, enfin tout ça, tout ça. Et puis donc, les quatre bateaux de ces trois sociétés ont été saisis. Alors, on va savoir d'ici la fin de l'année hein, ce qui va se passer. Ils vont être jugés un peu plus tard pour pratique commerciale trompeuse et perturbation volontaire d'espèces animales non domestiquées protégées. Voilà, ça c'est pour l'information juridique. Alors, qu'est-ce qu'ils risquent ? 2 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Je pense que c'est surtout l'amende hein, qui est craint dans cette affaire. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les réactions. Alors, tout de suite, du côté de ces sociétés, on a des réactions qui sont d'abord du chantage à l'emploi. Alors, on a par exemple Madame Magali Grimont, qui est citée comme étant épouse du gérant du bateau d'Annette. Hein, bateau d'Annette, donc société visée hein, par cette attaque du parquet de Grasse, qui explique que quand même, ils sont traités comme de lourds délinquants. Je cite. Et que il y a d'autres activités comme la pêche ou le.
Ouais, ils sont quand même pour des lourds délinquants, ils n'ont pas fait de garde à vue,
si,
tout
ils
ça.
Ils ont fait de garde à vue, je t'ai dit tout à l'heure.
Ah oui, c'est vrai.
Par contre, ils
sont sortis, je veux dire. Voilà. Voilà.
C'est pas marrant les gardes à vue, quoi qu'on en pense, hein, d'accord. Alors, par contre, donc Magali Grimont, donc épouse du gérant du bateau d'Annette, explique que donc ils sont traités comme de lourds délinquants et que en plus ils ont d'autres activités comme la pêche ou l'observation des cétacés et que donc ils sont privés de leur outil de travail et que ça va les mener à la liquidation judiciaire et qu'en plus il y a des dizaines d'emplois qui sont en jeu. Chantage à l'emploi, première chose. Ensuite, les trois entreprises se sont donc regroupées dans un syndicat du collectif des opérateurs marins azuriens et français.
Et dans un patronal du coup.
Et dans un communiqué, on expliquait que ces sociétés étaient des défenseurs d'un écotourisme responsable. Alors c'est marrant parce que l'écotourisme responsable, c'est pas aller se balader au milieu d'une espèce protégée, dans lequel en tout cas il faut pas perturber ces animaux.
Je
sais depuis déjà quelques années.
En fait, toutes les études ont montré que l'écotourisme ça n'existait pas.
Ouais.
Voilà.
Ça c'est le premier argument. Donc en fait, ça serait un peu comme les chasseurs. Ils seraient gentils avec les animaux.
Ah oui.
Les chasseurs régulent, eux, ils aiment. Tu vois, enfin, c'est un peu la même idée hein, quand même qu'on retrouve, je trouve.
Ils tuaient quand même pas les dauphins, c'est déjà pas mal.
Non, mais enfin, quand même, enfin, tu fais du profit sur le dos en allant gêner des bandes de dauphins dans leur. Enfin,
qui ne demandaient rien.
Qui ne demandaient rien. Autre argument, en fait, c'est pas normal qu'on vienne les emmerder parce qu'en fait, ils vont nager dans les eaux internationales. Donc en fait, pourquoi la France viendrait ? Alors, du côté du parquet, on dit qu'après investigation, 98% des activités se faisaient dans les eaux territoriales françaises, donc tes eaux internationales, pouf, elles sont à 2%, d'après ce petit calcul. Donc ça marche pas. Et puis, en fait, il faut aussi se rendre compte que derrière, c'est par exemple France Nature Environnement qui avait signalé hein, ces sociétés à la justice. Entre autres, c'est pas la seule, des organisations de protection de la nature et des animaux qui sont intervenues pour dire ça suffit. Il y a un arrêté, on s'est battu déjà pour obtenir cet arrêté. Il n'est pas si vieux, il date que de 2020. En plus, il a été mis en pratique à partir de 2021. Donc, ce serait bien qu'il y ait un respect et une protection de l'animal, en l'occurrence du dauphin. Voilà.
Alors, je vais parler un peu d'homophobie. On va aller en Australie.
On fait des grands sauts hein, quand même en termes de déroulés. Hein, parce
que... Ouais, mais l'Australie, c'est un pays où il y a beaucoup la mer.
Après, je vais vous parler de camembert, autant vous dire.
Bon, bref, on va au club de rugby à 13. qui s'appelle Manly. Alors, je ne suis pas sûr si ça se prononce comme ça, mais on s'en fout, c'est à Sydney. De Manly, c'est le nom du quartier, en fait. Hein. Et le club s'appelle Sea Eagle, donc les aigles de la mer. Donc, eux, ils ont présenté une tenue spéciale qui est prévue pour le prochain match, je crois que c'est ce soir, enfin, avec le décalage horaire, hein, on est à l'autre bout du monde. Et donc, ils ont un maillot traditionnel, violet. Et là, ils ont rajouté quelques bandes arc-en-ciel. Donc, c'est un t-shirt, comme le dit le Danny Sport, qui est le directeur de cette entreprise qui finance, qui sponsorise les maillots de l'équipe. Et il a dit, ils vont porter fièrement ce maillot arc-en-ciel. Le PDG du club a dit pareil, c'est une réalisation fantastique. Nous sommes heureux d'avoir ce drapeau arc-en-ciel. Donc, on soutient la communauté LGBTQ, etc. Mais ça foire. Alors, au début, ça s'est bien passé. Ils ont été en rupture de stock, aussi bien sur les maillots pour les hommes que pour les femmes. C'est une équipe masculine, hein, mais les fans se sont jetés sur ces maillots en soutien à la communauté LGBTQI+. Mais il y a eu un mais. Et le mais a fait un rebond. Voilà, sensation, et dans le mauvais sens plutôt quand même, en Australie, puisque quelques heures après la présentation du maillot, des joueurs se sont exprimés, ils sont 7, ils ont dit, nous on refuse de porter ce maillot. Ah bon ? Ils expliquent, ça va à l'encontre de leurs convictions culturelles et religieuses. Entendre par là que pour eux, il est impossible de tolérer que deux personnes du même sexe s'unissent, s'aiment, etc., etc. De l'homophobie ordinaire, me direz-vous. Dans le sport, il y en a plein. Et en Australie, encore plus, dirais-je. Et c'est notamment Ian Roberts qui témoigne. Alors lui, il a bossé sur le t-shirt. C'est le premier joueur, même s'il est retraité aujourd'hui, qui a, et c'est le seul en fait, rugbyman, qui a fait son coming out en Australie. Donc il a dit qu'il est homosexuel, tout ça. Et donc lui, il dit, il comprend pas bien là ce qui se passe, parce qu'il avait l'impression que ça avait évolué quand même le milieu du sport en Australie, et non. Alors ça énerve aussi des gens dans le milieu sportif, hein. Il y a Code Sport, un site sur le sport, et c'est une journaliste qui s'est énervée, je vais dire ce qu'elle dit. Elle dit, ce qui me rend furieux, c'est que les joueurs qui boycottent un arc-en-ciel ne boycotteront jamais un coéquipier s'il est accusé de violence contre les femmes. Et en fait, il y a eu des cas dans cette équipe de rugbyman qui ont été poursuivis ou condamnés de violence envers les femmes. Il n'y a jamais eu aucune réaction publique d'un autre joueur, jamais eu un boycott. Par contre, porter un t-shirt avec le drapeau arc-en-ciel, là oui, on réagit. Donc elle est super énervée, cette journaliste, et plein d'autres en Australie. Alors l'entraîneur Desmond Haller, il a répondu, il a dit, je cite, pour lui, le problème, c'était pas en fait l'homophobie de ses joueurs. Non, il n'y a pas de souci en fait. C'est juste que ils n'ont pas consulté les joueurs avant d'avoir fait le maillot. Et donc voilà, c'est ça le problème. Grosso modo, il soutient le discours et les comportements homophobes de ces 7 joueurs, parce que pour lui, c'est pas ça le problème, c'est la non-consultation. Or, c'est bien dans ce qu'expliquent les joueurs. Pour leur rejet de l'homosexualité, leur haine de l'homosexualité des homosexuels, qu'ils refusent de venir jouer, c'est-à-dire de porter ce maillot. Voilà, donc c'est bon, ça a fait réagir. On remarque quand même qu'une fois de plus, hein, c'est des raisons religieuses qui sont à l'origine de cette homophobie, qui est très très forte, hein, dans le sport en général, mais alors dans le sport australien, ça a l'air d'être encore d'un autre niveau. Donc voilà, il y a quand même des progrès à faire dans ces milieux-là, des milieux hyper machistes, hein, notamment dans le sport masculin, du coup.
Alors parfois le Conseil d'État prend des décisions assez jouissives, je dois dire. Moi ça m'a fait fort plaisir, c'était vendredi 22 juillet, le Conseil d'État a une nouvelle fois rejeté les requêtes de Lactalis, Isigny-Sainte-Mère et du Syndicat National des Fabricants de Camembert, autrement appelé le SNFC, puisque je vous rappelle qu'il y a une grande bataille de la part des industriels.
Une guerre,
c'est vrai, une guerre. Pour donc ces industriels, pour pouvoir mettre sur le camembert la mention « fabriquée en Normandie ». Le Conseil d'État a donc décidé une nouvelle fois, puisque la dernière fois c'était fin 2021, quand le Conseil d'État avait déjà débouté les industriels du camembert. Et donc là, en juillet 2022, rebelote, les industriels du camembert sont encore une fois déboutés. Le Conseil d'État a estimé que ça portait confusion auprès du consommateur et de la consommatrice face à l'appellation d'origine protégée, l'AOP, qui inscrit sur sa boîte de camembert, camembert de Normandie, au lait cru, bien évidemment, puisque c'est la charte du lait cru. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'écrire en petit, fabriqué en Normandie pour Lactalis, hein, mais bien de le mettre en gros pour que toi qui consommes du camembert, tu ne vois qu'une chose, Normandie. Comme ça, tu as l'impression d'acheter
un vrai camembert
au lait cru.
Alors que ce n'est pas du lait cru et que ce n'est pas totalement en Normandie.
Alors ça peut être en Normandie, si, oui, parce qu'il s'y fabrique en Normandie. Hein. En tout cas, il n'est pas au lait cru, ça c'est certain. Lactalis, ça là, hein, c'est... Alors Lactalis essaie de se positionner aussi sur ce marché du lait cru.
Officiellement, ils sont anti-lait cru.
Mais sauf que ça pose quand même des problèmes dans l'industrialisation de masse. Il faut quand même rappeler que Lactalis et Isigny-Sainte-Mère détiennent 90% du marché français du camembert.
Industriel.
Du marché français, ouais. Pour 90%. Qui évidemment devient donc industriel. Pour 10%, il n'est plus industriel. Ça représente quand même 120 000 tonnes, hein, ce camembert en France. Donc là, on sent qu'il y a quand même une guerre économique extrêmement importante à gagner pour Lactalis et Isigny-Sainte-Mère. Franchement, voilà, c'était juste, j'ai trouvé ça marrant.
Sauf que Lactalis est en train de s'asseoir sur la décision, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient continuer comme ils faisaient et que ça allait très bien se passer.
C'est pas grave, parce que c'est pour ça que je vous en parle, comme ça, éviter de choisir du Lactalis. Je vous rappelle que c'est compliqué hein, de savoir si ça appartient à Lactalis, mais qu'il y a des moyens simples. Il suffit une bonne fois pour toutes d'aller se balader sur je ne sais quel site qui va vous répertorier tout ce qui appartient à Lactalis, puis vous faites des croix, et puis voilà, puis à un moment on arrête d'acheter ces produits, et puis surtout on achète un truc au lait cru, ce qui fait que déjà...
Au lait cru et AOP, donc du coup là vous êtes
déjà même si Lactalis rachète certaines entreprises, c'est bien ça le problème. C'est que même ça, ils arrivent à le rendre industriel. Bon, voilà. Et puis peut-être qu'il faut manger moins de camembert hein, et puis acheter que du meilleur. Enfin, parce qu'évidemment, c'est plus cher, hein, bien évidemment. Alors, je vais vous parler d'autre chose. C'est une nouvelle que je n'avais pas dans mon déroulé, mais ça m'a fait marrer. C'est une nouvelle du jour qui nous vient de Corée. Je vous parle de Starbucks, puisque Starbucks Coréa a eu quelques difficultés hein, ces derniers jours et a dû présenter des excuses aujourd'hui parce qu'il y a eu une petite boulette. Alors, la boulette, elle se trouve en fait dans des sacs publicitaires remis en fait aux consommateurs et aux consommatrices. Starbucks, vous savez, ça, cette espèce de côté un peu, on est très vert, il y a un petit côté greenwashing quand même dans ce que l'on propose hein, comme image dans Starbucks. Alors je vous rappelle que Starbucks aux États-Unis d'Amérique se bat contre l'apparition de ces syndicats dans ces magasins. En tout cas, en Corée, Starbucks pouvait te remettre un petit sac de pique-nique, si tu avais acheté un certain nombre de boissons, si tu avais tes petites fidélités, et puis au bout d'un moment d'un de tes achats de boissons, on te remettait ce petit sac. Sauf qu'il y a a priori un consommateur qui s'est aperçu d'une petite chose, c'est qu'il y avait du formaldéhyde dedans. Sauf que ça a bien été prouvé, puisque Starbucks Korea a donc communiqué, expliqué qu'il y avait effectivement du formaldéhyde dans ce sac, ce petit sac de pique-nique.
Alors, c'est un gaz émis par les composants du sac, qui est donc plutôt dangereux et pas très bien pour la consommation.
c'est une substance qui est classée par l'OMS comme substance cancérigène pour les êtres humains. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des limites, hein, comme de partout dans le monde. Alors, en Corée du Sud, il faut savoir que les niveaux de formaldéhyde doivent être inférieurs à 75 mg par kilogramme pour les vêtements, par exemple. Et puis à 300 mg par kilogramme pour la literie, par exemple. Je vous donne ces deux exemples parce que, du coup, pardon, ça me fait rien, parce qu'ils sont plantés, Starbucks. Hein. Alors, Starbucks Coréa, donc, fournit quand même des chiffres. Hein, et a expliqué que dans le sac non ouvert, c'est-à-dire quand il avait été remis comme ça, hein, sur un petit sac plastique, au consommateur et à la consommatrice, il y avait 459 mg par kilogramme, c'est-à-dire plus que dans la literie. Mmh. Et que même 2 mois après, il y avait encore et toujours un sacré paquet de formaldéhyde qui avait été trouvé sur ces sacs. Donc, voilà, une multinationale qui a dû faire des excuses en Corée pour ce petit sac à pique-nique. Voilà, donc le greenwashing, ça marche pas toujours très très bien. Et puis surtout, le petit sac pourri qu'on te remet en cadeau, finalement, on n'en veut pas. Voilà, ça m'a juste fait marrer.
Eh bien, il est 19h59 et 15 secondes à la pendule la plus rebelle des radios. Il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. On se retrouve bientôt.
Ouais, je peux peut-être presque vous donner une date si vous m'accordez quelques instants, parce qu'on va effectivement s'absenter pour quelques semaines, hein, nous prenons quelques vacances, ça nous arrive, mais il est fort probable que le 25 août, nous soyons extrêmement motivés à revenir à cette antenne.
Ah ouais.
Ah, moi, en tout cas, je serais extrêmement motivée à revenir. Vous mais... l'aurez compris, on n'a pas tous et toutes
je sais pas comment
la même envie.
Ça coûte.
Mais je suis.
Ma boule de cristal, elle est floue. Elle me
ah,
dit pas.
Elle est floue. Ouais, ouais. Bon, bah, de toute façon, sinon, ça fait 1er septembre, ça fait loin quand même.
Non, mais je vais valider.
Mais sinon, 1er septembre, on sera là.
Non, non, mais on revient le 25 août.
Il n'y a aucun moyen que nous manquions ce 1er septembre 2022 avec vous. Voilà. On vous souhaite à tous et à toutes un bon été, surtout si vous travaillez et que vous n'avez pas l'occasion d'avoir des congés. Si vous partez pas en vacances, on vous souhaite quand même un bon été malgré tout, hein, espérons d'en profiter un tout petit peu quand même. Voilà, le temps libre, il faut savoir le gérer et le partager avec d'autres et faire des tas de choses merveilleuses. Il y a tout plein d'émissions qui restent quand même, hein, sur Radio Canu. Allez, si, on va dire qu'il y en a qui restent. Et puis surtout, il y a toujours les fabuleuses bandes continues, les bandes musicales organisées par les bénévoles de Radio Canu, bien évidemment.
Bye bye.
Ciao.